les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, monsieur le professeur Philippe Aquileas, professeur de droit à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay, directeur de l'IDEST et du Master de droit des activités spatiales et des télécommunications, nous dessine les contours du droit de l'espace. Premier épisode, le droit et la conquête de l'espace.
Bonjour aux auditeurs d'Amicus Radio, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui pour vous parler du droit de la conquête de l'espace et pour vous expliquer comment est-ce que les États ont décidé de mettre en place un cadre juridique pour soutenir les activités dans l'espace extra-atmosphérique. En fait, tout a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Hitler cherchait à mettre au point une arme redoutable capable de frapper le territoire britannique sans engager l'aviation du Reich. Et pour cela, il a fait appel à Wernher von Braun, lui a mis à sa disposition une équipe de chercheurs réunis au sein d'un camp de concentration tenu secret pour mettre au point la fameuse fusée V2 qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va frapper le territoire britannique. Les Américains et les Soviétiques savent alors que les Allemands sont en avance sur un domaine technologique fondamental. Dès lors, lorsqu'ils vont occuper l'Allemagne nazie, ils vont décider de s'emparer non seulement de l'équipe de chercheurs, mais également du reste de stock de missiles encore disponibles. Et c'est ainsi que les deux puissances vont conduire des recherches liées à l'accès à l'espace extra-atmosphérique. L'espace extra-atmosphérique se situe en fait à 100 km d'altitude. Ce n'est pas loin, mais il faut pouvoir s'arracher à la force de l'attraction terrestre. Et en 1957, ce sont les Soviétiques qui, les premiers, vont lancer un objet spatial dans l'espace, le satellite Sputnik, qui fera le tour de la Terre avec son fameux signal. Le lancement de Sputnik est un succès scientifique salué par la communauté internationale. Mais derrière ce succès scientifique se cache un succès militaire. Et les Américains le savent très bien. Car les Soviétiques disposent désormais d'une arme redoutable qui est un lanceur intercontinental. En fait, il suffit d'utiliser la technologie qui a permis de placer Sputnik dans l'espace extra-atmosphérique en déviant la trajectoire pour viser une cible sur Terre et de pouvoir mettre le territoire américain à la portée de la bombe nucléaire soviétique. Les Américains vont donc chercher à rattraper ce retard, ce double retard scientifique et militaire, mais les Russes auront toujours une longueur d'avance en envoyant, en 1961, Yuri Gagarin, le premier homme, dans l'espace. C'est un nouveau camouflet pour les Américains, et c'est alors que le président Kennedy va prononcer un discours historique, en décidant de lancer un défi à l'ennemi soviétique, la course à la Lune.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best.
Ce discours prononcé par le président Kennedy n'est pas simplement un discours de politique spatiale. C'est aussi un message adressé au peuple américain. Le message que l'Amérique est forte et qu'elle peut devenir la première puissance spatiale et donc la première puissance mondiale. C'est alors que les États-Unis et l'URSS se lancent dans cette fameuse course à la Lune. Et contre toute attente, parce que les Russes avaient une avance, parce que les Russes sont les premiers à avoir atteint le satellite artificiel de la Terre dans le cadre d'une mission robotisée en 1966, ce sont les Américains qui atteindront les premiers la Lune avec la mission Apollo 11. Neil Armstrong, l'astronaute de la NASA, posera le pied sur la Lune et prononcera cette phrase célèbre.
It's one small step for man,
Nous sommes en 1969, les Américains deviennent la première puissance spatiale et s'affirment comme la première puissance mondiale. On pense alors que les choses vont aller très vite, que nous allons pouvoir établir des villes dans l'espace, mais la conquête spatiale s'arrête brutalement dans les années 70, compte tenu du coût colossal de l'envoi d'hommes dans l'espace. Les États vont alors décider d'organiser les activités spatiales autour de l'espace dit utile, c'est-à-dire qu'on va envoyer des satellites dans l'espace pour fournir des services sur Terre, télécommunications, observation de la Terre, navigation, météorologie. On oublie le rêve de la colonisation de l'espace. La conquête spatiale va reprendre soudainement dans les années 2000 avec la privatisation du secteur et l'arrivée de milliardaires issus de la Silicon Valley qui vont reprendre à leur compte le rêve américain, le rêve de toute une nation, aller vivre dans l'espace. Deux entrepreneurs symbolisent ce mouvement, Elon Musk et Jeff Bezos. On parle alors du « new space » par opposition au « old space » caractérisé par la NASA et des grandes entreprises comme Lockheed Martin et Boeing. Et cette course reprend à coup d'exploits technologiques qui sont conduits tour à tour par SpaceX et Blue Origin, les entreprises emblématiques du secteur spatial américain actuel. Depuis 1957, le club des puissances spatiales reste fermé. Une puissance spatiale désigne un État qui a la capacité autonome d'accéder à l'espace. Alors, quelles sont les puissances spatiales actuelles? Il y a d'abord, historiquement, l'URSS, donc aujourd'hui la Russie et l'Ukraine, qui se sont partagés le savoir-faire soviétique, suivi des États-Unis. Puis la France, qui devient une puissance spatiale en 1965, mais qui n'a pas les moyens seule de poursuivre sa politique et a mis en place une Europe spatiale à travers la création de l'Agence spatiale européenne en 1975. Agence spatiale européenne qui a permis le développement des lanceurs Ariane, qui sont le symbole de l'Europe technologique. Viennent ensuite le Japon, la Chine et l'Inde, qui complètent le club des puissances spatiales. Que fait-on dans l'espace? Alors, dans l'espace, on conduit d'abord des activités de recherche scientifique, d'exploration, mais l'espace est ouvert aussi aux utilisations commerciales. On en a déjà parlé, télécommunications, télévision, météorologie, observation de la Terre, navigation, positionnement. Aujourd'hui, les utilisations des satellites nous sont tellement familières qu'on oublie souvent leur origine spatiale. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où le satellite accompagne nos faits et gestes du matin au soir. Et ça, c'est très important de comprendre que sans satellite, les territoires deviennent aveugles et muets. Donc, comment s'organise le droit? Et comment s'est organisé le droit de l'espace? On peut distinguer trois périodes. Trois périodes de développement. La première place... le droit au service des États. C'est-à-dire que les États vont décider, dans le cadre des Nations Unies, d'adopter des règles contraignantes à travers des traités internationaux pour soutenir leurs activités dans l'espace. En réalité, 5 traités ont été adoptés entre 1967 et 1979. Un traité cadre, le traité de l'espace, qui pose les grands principes. Et ces grands principes sont la liberté de l'espace, la non-appropriation de l'espace et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Ce traité cadre est complété par 4 conventions spécifiques. En 1968, l'accord sur les astronautes, qui va poser un cadre de protection pour les astronautes qui sont considérés comme des envoyés de l'humanité dans l'espace. En 1972, une convention sur la responsabilité pour traiter de la réparation en cas de dommage causé par un objet spatial. En 1975, une convention sur l'immatriculation pour identifier l'État responsable. Et en 1979, un accord sur la Lune et les autres corps célestes pour déclarer que ces corps célestes sont patrimoine commun de l'humanité. 5 conventions mais elles n'auront pas toutes le même succès auprès des États. Si la majorité d'États s'est engagée à ratifier le traité de l'espace, rares sont ceux qui soutiennent l'accord sur la Lune, compte tenu de son caractère avant-gardiste, et nous le verrons dans un autre cours, du fait qu'il organise l'exploitation des ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes. Deuxième période, le droit de l'espace est placé au service l'entreprise, à travers cette fois l'adoption de lois nationales. C'est-à-dire que les États vont décider de mettre en place un cadre juridique pour soutenir l'essor d'activités commerciales. Et donc toutes les grandes puissances spatiales, et au-delà même de ces puissances spatiales, en gros, on a une dynamique autour de l'adoption de lois spatiales nationales. La France a adopté sa loi spatiale en 2008, c'est la loi relative aux opérations spatiales. Et la dernière période place le droit au service de l'innovation entrepreneuriale. Il s'agit alors de soutenir des nouveaux modes d'organisation privée autour des activités spatiales pour permettre non seulement les investissements privés, mais aussi l'émergence de start-up du spatial. C'est un mouvement juridique et réglementaire qui a été initié aux États-Unis lorsque la NASA a décidé de mettre en place une politique de marché public pour en fait permettre à des partenaires privés, et plus particulièrement SpaceX et Blue Origin, de conduire des activités qui étaient jusque-là réservées à la puissance publique, c'est-à-dire les activités de transport spatial. Et donc, en transférant une partie des fonds qui étaient alloués à la politique de transport spatial à des entreprises privées via des marchés publics. Les États-Unis vont également poursuivre ce mouvement visant à intéresser la sphère privée à travers l'adoption de deux lois, une loi pour promouvoir les vols suborbitaux et le tourisme spatial, et une voie qui fait polémique, qui a été adoptée en 2015, pour autoriser l'exploitation commerciale des ressources des corps célestes. Je vous laisse avec Space Oddity de David Bowie, qui représente merveilleusement cette période de conquête spatiale des années 60. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.